My gang will get you.
Les enfants du Nouveau Monde, une émission de Céline Elodie. Même si on nous en parle très peu, le monde est rempli de belles choses. Des humains en marche, des initiatives pleines de bon sens et d'humanité. Nous sommes tous une étincelle de cette transformation. Avec les enfants du Nouveau Monde, partons à la rencontre des terriens d'ici et des humains de là-bas, des enfants de la Terre qui aiment notre planète, qui croient en leurs rêves et qui créent un monde meilleur par leurs actions quotidiennes. Aimer l'humain, humer l'humus, humilité, avec humilité. Bienvenue sur Terre, enfants du Nouveau Monde.
Hey man, you want girls? I show you a good time. This place has everything. Come on, I show you.
Salut à vous, les auditrices et les auditeurs des enfants du Nouveau Monde. C'est Céline Elodie qui vous parle, toujours ravie de vous transmettre les sujets qui me paraissent très intéressants. Et parmi ceux-là, mon sujet favori du moment, c'est l'écologie intérieure. Alors l'écologie intérieure, qu'est-ce, me direz-vous ? Non, il ne s'agit pas de l'intérieur de la maison, il s'agit de l'intérieur de soi, de l'intérieur de l'être, et de comment donc prendre soin et honorer toutes les fonctions, tous les aspects des êtres humains que nous sommes. Et pour parler de ça, je suis avec Yann Thibault. Salut Yann.
Salut Céline Elodie.
Et donc tu es l'inventeur hein, de l'écologie intérieure. Ce terme-là, t'es venu au début des années 2000 pour, on va dire, englober tous tes sujets de recherche et la synthèse que tu as faite.
Alors je dirais pas que je suis l'inventeur de l'écologie intérieure parce que d'autres que moi emploient cette expression. Il y a un bouquin qui s'appelle Pour une écologie intérieure. Je ne suis pas le seul à employer l'expression, mais je crois que, enfin, sans présomption ou orgueil, je suis certainement un de ceux qui a le plus approfondi l'idée et réfléchi à ce qu'implique cette idée. Et donc, j'ai écrit 3 livres, j'anime des formations, des stages, des séminaires. Et le terme d'écologie intérieure s'est peu à peu imposé à moi pour synthétiser, résumer l'ensemble de ma démarche et de mes stages.
Alors justement, l'ensemble de ta démarche, on va essayer d'en savoir un peu plus. Toi, c'est vraiment l'histoire d'une vie, hein, l'histoire d'un parcours. Aujourd'hui, tu as une soixantaine d'années, hein, c'est bien ça, dévoile tout.
Un petit peu moins.
Mais ouais. Toujours est-il que le parcours a commencé très tôt pour toi, donc tu étais vraiment un des pionniers avec des centres d'intérêt assez peu communs, on va dire, en ce qui concerne le psychisme humain, tout le travail sur les émotions, comprendre comment ça fonctionne, tout ça, et puis au-delà de ça, un intérêt pour la spiritualité, pour la question de l'éveil, et puis pour de vastes questions ésotériques.
Oui, alors à 13 ans, enfin ça a commencé comme ça, je tombe dans la revue Tout l'univers, qui est une encyclopédie que connaissent les gens de mon âge, sur un article sur le Bouddha. Et je me dis, c'est ça que je veux faire dans la vie.
Je veux être Bouddha.
Non, mais en tout cas, ça résumait, j'ai jamais eu la présomption de me trouver à ce niveau, mais en tout cas, ça résumait mon ordre, mon sujet de préoccupation. Je me suis dit, je veux atteindre l'éveil, l'illumination, etc. Et donc, à partir de ce moment-là, je n'ai eu de cesse, d'une part, d'accumuler des connaissances en spiritualité, en ésotérisme, et puis de pratiquer toutes les formes de méditation dont j'avais connaissance dans les années 70. Et donc, je n'ai cessé de méditer à partir de ce moment-là pour atteindre l'éveil, ou ce que je supposais être l'éveil. J'avais entendu dire qu'un grand nombre d'éveillés s'éveillent à 19 ans. Donc, je me suis dit, si eux le font, pourquoi pas moi? Donc, je m'attendais à m'éveiller à 19 ans. 19 ans arrivent, rien ne se passe, j'étais mortifié. J'étais extrêmement déçu. Je me suis dit, mais où me suis-je trompé? J'ai réalisé qu'en fait, ce qui m'empêchait d'atteindre l'éveil, puisque j'avais lu énormément de livres, j'avais une idée assez précise de ce qu'est l'état d'éveil, je m'étais concentré,
intériorisé,
j'avais vécu des centaines d'heures en méditation, qui commençaient à donner de tout petits résultats, mais pratiquement pas. Il y avait aucun éveil et j'étais bouffé par des émotions, des peurs, des tristesses, des colères. Et je me suis dit, bon sang, mais c'est bien sûr, tels les nuages qui cachent le soleil, l'éveil qui, par définition et selon les grands maîtres spirituels, est la nature profonde et éternelle de l'être humain, est caché par les nuages que sont les émotions perturbatrices. Et à partir de ce moment-là, j'ai porté mon attention sur les psychothérapies existantes dans les années, bon, c'est 19 ans, c'est les années 80, et en particulier ce qu'on appelait à l'époque les nouvelles thérapies, ou thérapies psychocorporelles. Mmh. Donc j'ai commencé à faire du rebirth, etc., du cri primal, de la bioénergie, etc., et à vivre mes émotions, à vivre mes tristesses, à pleurer, à vivre mes colères, etc. Et curieusement, quelques semaines après, les états d'éveil que j'avais espéré, attendu pendant des années, ont commencé à arriver. De manière inopinée, attendue. Et j'ai compris qu'effectivement, j'étais sur la bonne
piste. Là, t'étais sur la bonne voie.
C'est-à-dire que pour vivre des états d'éveil, retrouver l'être spirituel, il fallait, dans un premier temps, que je me libère de ce qu'il cachait. Et au final, ce que j'ai compris, c'est que ça suffisait. C'est que mécaniquement, automatiquement, la nature du soi resplendit pour autant qu'il n'est plus caché, altéré, occulté par les illusions, ce qu'en Inde on appelle les samskaras, les illusions émotionnelles. Mmh. Et d'ailleurs, le phénomène dont parlent beaucoup les spirituels, c'est-à-dire le mental obsessionnel, a totalement disparu. C'est-à-dire les pensées qui reviennent,
qui tournent en boucle.
Ce phénomène que je connaissais quand j'étais ado, que j'avais 13, 14, 15 ans, a totalement disparu à partir du moment où j'ai commencé à vivre mes émotions. Et donc j'ai compris que je, en tout cas, et beaucoup parmi les occidentaux, prenaient une mauvaise voie en voulant se concentrer pour atteindre l'éveil et utiliser la volonté et le contrôle, parce que du coup, les problèmes émotionnels qui sont les vraies causes de l'occultation de l'éveil n'étaient pas traités. Mmh. Et que donc il fallait aller voir du côté de l'ombre, ce qu'on appelle l'ombre, du côté de l'inconscient, dont parle Freud et ses continuateurs, pour réellement guérir, harmoniser et transformer la structure et la structure psychique et retrouver ce qui est caché derrière, c'est-à-dire la lumière, l'éveil, l'illumination,
la joie d'être.
Voilà. Alors, je précise que j'ai pas atteint un état
D'éveil permanent,
ni d'éveil absolu. Mais j'ai commencé à avoir des fragments ou des aperçus de l'éveil qui, depuis, n'ont cessé de se développer, en fait, mm-hmm. de se stabiliser mm-hmm. et de se pérenniser, sans que pour autant je me considère comme un éveillé aujourd'hui. Je me considère comme quelqu'un en voie d'éveil, comme chacun d'entre nous. Mais en tout cas, j'ai perçu très clairement ce que c'était le nettoyage, la purification de l'inconscient, comme dit Arnaud Desjardins, qui est le grand introducteur en France des spiritualités orientales, qui était la voie royale d'accès à l'éveil. Mmh. En tout cas pour nous autres occidentaux.
Alors toi, tu as beaucoup lu sur tous ces sujets, hein, tu as beaucoup cherché, beaucoup investigué, et aujourd'hui, donc, à travers l'écologie intérieure, tu livres une synthèse, la crème, on va dire, de toutes tes recherches, les exercices et les outils les plus efficients que tu aies pu rencontrer à travers ces années de psychothérapie et de lecture, etc. Tu livres vraiment une très belle synthèse. Donc on peut citer quelques sujets. Exercer son intuition, transmuter ses émotions, donc on vient d'en parler, c'est vraiment la clé hein, fondamentale dans ton travail. Les guérisons du passé, retrouver sa mission de vie, son but de vie, ce qui est essentiel aujourd'hui dans notre monde. Tu proposes aussi la découverte de la communication authentique et puis travailler sur le masculin-féminin, ça c'est très en vogue aussi aujourd'hui, équilibrer ces deux polarités et enfin travailler sur la création de réalité. Comment on crée notre réalité, donc ça c'est la loi de l'attraction, revisitée et mieux, on va dire, mieux comprise.
À la lumière de l'inconscient.
À la lumière de l'inconscient, effectivement.
Ce qui change beaucoup de choses.
Oui. Vous savez, on peut en dire deux mots, hein, en fait, pour créer notre réalité, on n'a pas que le conscient qui crée la réalité.
Oui, il y a une triple création de réalité dans la mesure où il y a trois niveaux dans le psychisme humain. Le conscient, le seul niveau que l'on connaisse habituellement, le supraconscient qui est l'aspect spirituel et l'inconscient qui est l'aspect émotionnel dont nous n'avons en général, tout au moins au départ, peu connaissance.
En gros, nos émotions sont tellement refoulées qu'elles viennent se loger dans cette strate inconsciente de notre être.
Voilà. Et en fait, ce que peu de gens ont compris, c'est que la loi d'attraction, la création de réalité, concerne les trois niveaux de l'être à la fois. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le conscient qui crée la réalité, mais également l'inconscient, qui crée en fait des problèmes, des freins, des empêchements, et le supraconscient, donc l'aspect spirituel, qui peut aussi créer des circonstances ou des situations inattendues pour booster notre évolution.
Pour nous aider.
Donc en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ce que l'on croit habituellement, ce qui n'empêche pas de s'y repérer dans ce maquis de la loi d'attraction, de la création de réalité. Et j'ai effectivement mis au point différents exercices pour démêler un petit peu tout ça et parvenir à une création, je dirais, effective, opérative, de réalité.
On peut parler d'un exercice très simple qui s'appelle l'exercice objectif-objection. Pour tout à chacun qui avons des projets, des rêves à réaliser dans nos vies, pourquoi n'y arrivons-nous pas? Qu'est-ce qui bloque? Et là, donc, travailler sur ces blocages qui sont souvent de nature émotionnelle.
Oui, tout à fait. Voilà, on imagine la réalisation d'un objectif et aussitôt se manifestent, car elles sont mises en danger, les croyances et les émotions obstacles qui viennent de l'inconscient.
Par exemple, je suis pas capable, voilà. J'y arriverai jamais.
Voilà, genre de choses. Et en retrouvant l'origine dans le passé et en transmutant la charge émotionnelle associée, on peut dépasser ces blocages. Mmh. Le point important, c'est que c'est pas seulement les croyances. Il suffit pas de prendre conscience des croyances et, par exemple, comme on le fait en pensée positive, de se répéter tel
c'est
un marteau.
C'est pas la méthode Coué, quoi.
Non, c'est pas la méthode.
Je suis trop fort, je vais y arriver. Je suis trop fort, je vais y arriver tous les matins.
Voilà,
ça va pas suffire.
Ça marche pas parce que la charge émotionnelle demeure. Tant que la charge émotionnelle demeure, on n'y croit pas vraiment. Donc, il faut également transmuter la charge émotionnelle associée, c'est-à-dire l'amener à changer de nature en la vivant physiquement, corporellement et par la respiration.
Alors on va parler justement plus précisément de cette transmutation émotionnelle, ce que tu appelles l'alchimie émotionnelle. Juste, je voulais finir un petit peu avec ce que tu proposes dans l'écologie intérieure. Bien sûr, tu proposes aussi la spiritualité naturelle, c'est-à-dire retrouver des états d'éveil via une spiritualité spontanée, qui ne soit pas dogmatique, qui ne s'appuie pas sur des propositions extérieures, mais plus sur des élans intérieurs, à se mettre à l'écoute de nos élans intérieurs.
Enfin, disons que c'est ce que j'appelle la méditation naturelle ou méditation libre, ou méditation libertaire, ou méditation spontanée, sans posture imposée, sans règles, sans refouler ses émotions, sans interdire ses pensées, sans essayer de faire le vide, et en faisant totalement confiance en notre nature, et ce qui donne des résultats extrêmement puissants et rapides en 40 minutes, à peu près. Donc ce que j'appelle méditation naturelle est l'outil fondamental d'obtention d'états d'expansion de conscience.
Qui est le but de la spiritualité, hein,
voilà.
Obtenir des états d'expansion de conscience, gagner en conscience.
État d'éveil,
oui. Alors, donc toi, tu pars du postulat que la plupart des problèmes humains sont de nature émotionnelle.
Plus que la plupart, moi, je pense
tout
que...
Toutes les problématiques
oui,
humaines.
Oui, je pense que les problèmes fondamentaux de l'humain, tant au plan individuel qu'au plan collectif, ce sont les émotions inconscientes refoulées. Et qui génèrent des pensées inadéquates, des pensées perturbées, des croyances erronées.
Voilà.
Et que, en fait, le problème fondamental de l'humain, c'est effectivement l'existence de l'inconscient et le pouvoir de l'inconscient sur nos vies.
Donc là, l'idée de l'alchimie émotionnelle ou de la transmutation émotionnelle, c'est vraiment de laisser remonter tout ce que contient notre inconscient, le laisser remonter à notre conscience et oser l'explorer.
Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, dans les démarches spirituelles, la plupart du temps enseignées, on va se désintéresser complètement de l'ombre, de l'inconscient. En général, ce terme n'est même pas connu. On est dans une vision duelle entre le conscient et le supraconscient, quels que soient les mots qu'on adopte. Et on veut se modeler par la volonté, conformément à on veut ressembler à un modèle spirituel. Mmh. Donc on fait des efforts par la volonté pour ressembler à un modèle d'amour, de sagesse,
de
bonté, de compassion. Et on ne tient pas compte de ce qui bloque, c'est-à-dire notre inconscience, c'est-à-dire notre peur, notre tristesse, notre colère, notre haine, notre auto-dévalorisation, notre culpabilité.
Tout ce qui va nous amener à ressentir autre chose que cet amour et cette compassion à l'égard de soi-même et d'autrui.
Voilà. Ouais. Et donc, avec l'idée techniquement erronée selon laquelle, lorsqu'on ne tient pas compte de l'inconscient, il disparaît. Ce qui est faux, parce qu'on ne peut pas tuer une part de soi. Notre inconscient est une part de notre âme, et le fait de refouler les parts d'ombre, les émotions douloureuses, ne fera que les renforcer. Alors apparemment on aura gagné la partie, mais en fait l'émotion ressort
de façon encore plus brutale. C'est encore comme un barrage brutal, voilà. Sur un cours d'eau.
Voilà, c'est
si
ça.
On met un barrage, à un moment donné, ça va renforcer la puissance de l'eau,
voilà,
et quand ça va ça.
Et à un moment le barrage pète et on est complètement submergé par l'émotion.
Mmh.
Et ce que l'on nie, on le renforce. D'où le phénomène de l'ego spirituel bien connu, c'est-à-dire essayer de créer une personnalité valorisée et souhaitée fictive par la volonté, ça crée un faux moi spirituel, donc un ego spirituel. Et c'est tout simplement par ignorance du fonctionnement de l'inconscient. Je me suis rendu compte, je suis pas le seul à le dire, c'est le principe yin-yang le fameux schéma yin-yang des taoïstes, qu'il faut aller voir du côté de l'ombre et c'est comme ça qu'on trouve la lumière. La lumière est cachée dans l'ombre. Donc autrement dit, qui veut faire l'ange fait la bête, lorsqu'on se force à faire semblant d'être un être spiritualisé, on crée un faux être spirituel. Par contre, lorsqu'on va voir du côté des peurs, des tristesses et des colères, et que l'on vit vraiment ce processus d'alchimie émotionnelle qui amène à transmuter ces aspects négatifs en sagesse, en puissance de vie et en joie, à ce moment-là, il y a quelque chose d'authentique et de vrai qui se met en place sans qu'on ait besoin de faire semblant ou de forcer les choses et de créer une pseudo-personnalité spirituelle. Boca abajo cayendo en el hueco más hondo apagado mi callado abajo me voy en mí. En la mar hundido, en el mar más alto, negro y amargo, abajo me voy. Y el polar quebrado en lo más transparente, el azul celeste, a pique me voy.
amargo. Abajo me voy, a pique me voy. En mí me voy. En mí me voy. En mí me voy.
Vous venez d'écouter Marianne Aya Omak, la délicieuse chanteuse de Jinko Biloba, avec Enemy Me Boy, qui signifie « J'entre en moi ». J'entre en moi, et oui, c'est l'étape fondamentale de la guérison profonde de notre être, entrer en soi, dans les recoins les plus sombres de nos âmes, oser cela pour y découvrir la lumière. On parle alors d'alchimie émotionnelle. Et on en parle avec Yann Thibault, fondateur et enseignant en écologie intérieure. Alors concrètement, comment opère cette transmutation émotionnelle? Parce que du coup c'est très intéressant, mais comment ça se passe? Aujourd'hui on voit bien que la plupart des êtres humains sont assez handicapés face à leurs émotions et ne savent pas comment vivre leurs émotions tout simplement, comment les vivre. Puisqu'on a tendance à tomber dans ces deux écueils que tu pointes vraiment du doigt, soit les refouler parce que c'est trop violent et qu'on ne sait pas quoi en faire, donc hop, on met le couvercle dessus et on les nie, soit on les défoule et on défoule nos émotions et on est complètement pris par elle et puis on va s'en prendre, on est en colère, on va s'en prendre au premier venu, à notre enfant, à notre compagnon, etc. Et ça crée les conséquences catastrophiques qu'on connaît. Donc on ne sait pas faire autrement. Toi, tu proposes une voie du juste milieu qui est la transmutation émotionnelle. Comment tu la décrirais?
Voilà, t'as parfaitement bien résumé la situation. L'humanité est enfermée dans ce dilemme éternel, soit de la barbarie, de la violence et de la folie au final, qui consiste à se laisser aller à ses émotions, faire et dire n'importe quoi, regretter ensuite, ce qui donne lieu à tous les conflits, toutes les guerres depuis le commencement des temps, soit précisément parce qu'on a peur d'être submergé par ses émotions et de se laisser aller, dominé par les émotions, à des comportements asociaux et problématiques, à les maîtriser, les contrôler et donc les refouler, mais ça marche pas parce qu'elles reviennent éternellement. Donc il existe ce que j'appellerais pas une voie du milieu parce que c'est pas entre les deux, mais une troisième voie qui consiste à vivre ses émotions consciemment. Donc en fait, je me suis rendu compte, après des dizaines et des dizaines d'années de recherche dans le domaine des méditations orientales d'une part et des psychothérapies occidentales, qu'il fallait faire sinon une synthèse, tout au moins prendre ce qu'il y a de bon dans chacune des deux civilisations. Donc je me suis rendu compte que bloquer ses émotions ne convient pas, qu'il fallait les vivre. Donc dans les thérapies que j'ai fait, on m'incitait à vivre les émotions, mais du coup j'étais identifié aux émotions et ça devenait une espèce de drogue et j'en faisais trop. Je tombais dans le piège du défoulement. Inversement, dans les méditations, je tombais dans le piège du refoulement, je me contrôlais et tout. Donc l'émotion n'avait pas la possibilité de se manifester.
Et d'être vécue de façon juste.
Elle n'était pas vécue. Elle était totalement niée, en fait. Donc, en thérapie, en psychothérapie, je me suis rendu compte que parfois, je suis tombé sur un phénomène que Swami Prajnapad, le gourou d'Arnaud Desjardins, décrit très bien. Quand il dit « la souffrance n'est pas douloureuse », il parle de souffrance émotionnelle. Ça veut dire que quand on accepte de ressentir une émotion douloureuse, elle cesse d'être douloureuse. Elle devient simplement un phénomène énergétique, en tant que tel neutre, et qui n'est douloureuse que parce qu'on le combat, qu'on la combat. On combat ce phénomène énergétique. Mais si on accepte la peur, elle devient simplement une espèce d'étrangeté. Si on accepte la colère sans la projeter ou l'attribuer aux personnes et situations que l'on rencontre, elle devient simplement un phénomène assez agréable, de puissance retrouvée. Si on accepte la tristesse, elle devient un phénomène assez agréable de spleen, d'ailleurs recherché par les romantiques, et qui donne accès ultimement à la sagesse. Et donc, je me suis rendu compte en faisant des thérapies que parfois il y avait ce phénomène décrit par Swami Prajnapad, donc de transformation, que j'appelais transmutation, des émotions douloureuses, aussi curieux que ça puisse paraître, en sentiments agréables, et en sagesse et en puissance de vie.
Donc voilà pourquoi tu utilises ce mot de transmutation ou d'alchimie émotionnelle, parce qu'il s'agit vraiment là d'une transformation d'une énergie plombante en une énergie d'or, si on veut reprendre l'image de l'alchimie, transformer le plomb en or, et donc qui ne passe que par accepter de ressentir, finalement. Accepter de ressentir sans projeter à l'extérieur, sans s'identifier à ce qui est en train de d'advenir. Et donc, ce que l'on ressent alors, ce sont des sensations physiques, d'une part, et puis également des pensées qui les accompagnent.
Non, pendant la transmutation, il n'y a pas de pensée. Il y a des pensées obsessionnelles, ce qu'on appelle le mental, c'est une mauvaise traduction du sanskrit manas, parce qu'il y a deux manteaux, le mental inférieur manas, qui est le mental obsessionnel, émotionnel. D'ailleurs, c'est si vrai que ce qu'on appelle Manomaya Kosha en Inde correspond en fait à la sphère émotionnelle. Et puis, il y a un deuxième mental, qui est le mental supérieur, qu'on appelle en sanskrit Vijnana, le mental sagesse, que Sri Aurobindo appelle supramental. Donc, le mental en tant que tel n'est pas un problème. Ce qui est un problème, c'est les émotions qui le perturbent et qui le déforment. Donc, le processus est le suivant. J'ai une émotion. Cette émotion, spontanément, par exemple une émotion de colère, je vais l'associer à une personne, je sais pas,
qui m'énerve,
mon conjoint, mon patron, etc. Bon. Mais aussi longtemps que je projette mon émotion sur l'extérieur ou une situation, Macron, etc. Bon. Aussi longtemps qu'on associe une émotion à une situation du présent, on est dans une parfaite illusion, parce qu'en réalité, cette émotion existait avant qu'on rencontre la personne qui nous énerve, par exemple. Elle nous appartient, elle vient de notre inconscient, elle vient en général de l'enfance, voire d'avant. Et à partir du moment où on comprend ça, il y a une première phase qui va permettre la transmutation, qui est ce que j'appellerais la défocalisation de la cause apparente de l'émotion. C'est-à-dire qu'au lieu de projeter l'émotion sur une personne ou une situation du présent, on revient à soi et on prête attention à ce qui se passe en soi. Et ensuite, la deuxième phase, c'est tout simplement de laisser le corps faire ce qu'il veut. Et donc, on vit l'émotion consciemment. Donc, il suffit pas de dire l'émotion est à tel endroit dans mon corps. Il faut vraiment laisser le corps faire ce qu'il veut. Et ce qu'on observe en général, c'est, par exemple, des tensions physiques, éventuellement des spasmes ou des bâillements. Enfin, c'est assez varié, mais toujours un changement respiratoire. La respiration émotionnelle est plus rapide et haletante. Et donc, on laisse faire. Et si on laisse faire et si on s'autorise à respirer, en quelques secondes, l'émotion va se transmuter, aussi curieusement que ça puisse paraître. J'étais le premier surpris quand je l'ai vécu il y a une trentaine d'années. Et l'émotion se transmute en joie, en puissance et en sagesse. C'est très, très surprenant. Autrement dit, en état méditatif, pour le coup, qui proviennent spontanément. Et j'ai appelé ça alchimie émotionnelle parce que ça correspond à la transmutation du plomb en or. Le plomb correspondant symboliquement à Saturne, donc à la tristesse, à la lourdeur, et l'or à la joie et au rayonnement de l'illumination des états supérieurs de conscience. Donc spontanément, il y a une transmutation des émotions douloureuses en joie et en aspect spirituel associé aux états supérieurs de conscience.
Alors moi, ce que j'aime beaucoup dans ton approche et dans ce que tu proposes, c'est que tu présentes des exercices et des pratiques qui sont tout à fait autonomisantes, que chacun peut s'approprier et utiliser très facilement par soi-même à tous les moments que l'on souhaite. Évidemment, les émotions, parfois on est pris par les émotions à un moment où on va pas être forcément disponible pour tourner son attention vers soi. Mais comme tu l'expliques très bien, on peut se donner rendez-vous un peu plus tard avec ça, c'est-à-dire pour l'instant, j'ai des choses à gérer, je suis en groupe ou en public, j'ai des choses à faire, je me donne un rendez-vous plus tard avec moi-même pour aller voir pourquoi j'ai été stimulée, qu'est-ce qui est là, pourquoi j'ai de la tristesse ou de la colère ou à ce moment-là. Je peux donner un exemple de cette transmutation parce que je pratique maintenant ça, j'essaye de plus en plus fréquemment. Et un exemple qui m'est venu, c'est une fois où j'ai dû prendre la parole en public et où j'étais pas très sûre de moi, je sentais que l'énergie était plutôt une énergie de trac, de peur, etc., avec les épaules qui s'enroulaient comme ça vers l'intérieur, l'envie de me protéger avec mes mains, en mettant mes mains autour de mes épaules, et puis finalement, en laissant faire cette crispation du corps, etc., j'ai senti le réconfort de ses mains autour de mes épaules, et puis cette énergie de peur se transformait en quelque chose de très rassurant, de ce contact physique qui m'a rassurée, et hop, voilà, l'émotion qui se transmutait de la peur à la confiance, à l'encouragement, à l'amour, etc. Donc voilà un petit exemple, et donc on peut le faire avec toutes les émotions qui nous traversent. Il y a quelque chose de particulièrement intéressant aussi que tu proposes, c'est la connexion à son guide intérieur, à notre intuition, puisqu'on a beaucoup parlé là du supraconscient. Le supraconscient, c'est la part la plus lumineuse et la plus sage de notre être, qui fait partie de nous, hein, partie intégrante, mais avec laquelle on est souvent coupé.
Alors je voudrais revenir un petit peu sur les émotions.
Oui.
Deux petites remarques. D'abord, effectivement, la transmutation se pratique quand on est seul, parce qu'on peut s'abandonner à ce qui se passe dans le corps, etc. Et il n'y a pas à s'inquiéter, l'émotion revient, parce qu'elle est là, à l'état latent. Ceci étant, il y a aussi des transmutations directes, comme celle que tu décris, avant de donner une conférence, si on accepte de ressentir l'émotion et de laisser le corps faire ce qu'il veut, éventuellement avoir une respiration un peu plus haletante. Il y a des formes de transmutation express, même si on ne va pas jusqu'au bout de la charge émotionnelle, et qui permettent d'être bien en toutes circonstances au final. Voilà, deuxième point, la transmutation, c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il n'y a pas de pensée pendant la transmutation. La transmutation n'est pas un phénomène mental, mais purement physique et émotionnel, par lequel on laisse faire le corps et on est en conscience témoin. Et il n'y a pas besoin d'analyser quoi que ce soit, ni même de retrouver l'origine de l'émotion dans le passé. Et c'est d'ailleurs pourquoi je disais que c'était une synthèse entre la conscience témoin qui vient des méditations orientales, mais où on laisse pas le corps faire ce qu'il veut, puisqu'il y a une posture bien précise, et les psychothérapies occidentales, ou en tout cas ce qu'on appelle les thérapies psychocorporelles, où on laisse le corps faire ce qu'il veut, mais souvent on ne connaît pas la conscience témoin. Mmh. Donc il faut trouver le meilleur de l'Orient et le meilleur de l'Occident. Mmh. Voilà les remarques que je voulais faire par rapport à la transmutation. En ce qui concerne le dialogue avec le guide intérieur, la deuxième pratique de base de ce que je propose, il s'agit effectivement d'entrer en contact avec la sagesse intérieure qui est la nôtre, et qui découle du fait que nous sommes ultimement, enfin je me permets de le dire au risque de choquer quelques matérialistes égarés, nous sommes des êtres divins avec une sagesse intérieure que nous ne connaissons pas, vu qu'on nous en a jamais parlé, et on nous a jamais appris à nous servir de notre intuition, ni à l'école, ni au catéchisme, ni ailleurs. Et donc nous sommes des êtres qui avons un guide intérieur ou un coach intérieur, dont les conseils sont gratuits, qui est constamment disponible et qui est totalement bienveillant, bien intentionné et qui sait mieux que nous ce qui nous convient. Donc le dialogue avec le guide intérieur consiste simplement à se brancher sur cette source intérieure de sagesse et de savoir, et c'est extrêmement simple à mettre en œuvre.
Alors bah justement, j'imagine que nos auditrices et nos auditeurs ont les oreilles grandes ou grandes ouvertes. Comment on fait pour mettre ça en œuvre et pour communiquer avec notre guide intérieur qui est notre intuition?
Alors, bon, en stage, je propose de rencontrer son guide intérieur et d'en avoir de le voir comme un personnage. Il s'agit d'un processus de personnification du guide intérieur qui peut aider, effectivement. Il faut bien comprendre que le guide intérieur est un symbole de la partie éclairée et éveillée de l'esprit qui est constamment accessible en nous, même si nous ne sommes pas à proprement parler éveillés à cet instant. L'éveil est toujours là, à l'état latent, c'est le supraconscient, et donc on peut le contacter à tout instant. Donc on peut simplement, j'ai constaté que la plupart des gens sont aidés par le fait de visualiser le guide intérieur, même si c'est un symbole. On peut le voir comme un symbole traditionnel de sagesse, un homme, une femme, un enfant, un dauphin, un animal, simplement un être de lumière. Ça peut aider de le visualiser, mais on peut le faire sans le visualiser. Donc dans tous les cas, en tout cas, qu'on le visualise ou qu'on ne le visualise pas, on pose une question, et ensuite, au niveau du cœur, parce que, bon, pour une raison que j'ai pas entièrement élucidée, c'est au niveau du cœur que se trouve l'être intérieur, et donc on laisse venir une réponse sans réfléchir au niveau du cœur. Et il y a des mots qui viennent et des phrases et qui nous donnent une réponse étonnamment sage et pertinente.
Étonnamment précise.
Ceci étant, faut pas entrer dans une attitude de superstition et de dépendance. Donc cette réponse, on la soumettra à l'analyse de son moi rationnel conscient, et pour ne pas faire n'importe quoi. Et justement, ce que je propose, c'est que souvent on dit « je le sens, je le sens pas », bon voilà, mais pourquoi ? Donc c'est important d'avoir la motivation, donc d'écouter de poser des questions au guide intérieur pour avoir des réponses précises et suffisamment étayées, argumentées, si la réponse ne l'est pas suffisamment, de sorte qu'on puisse avoir une réponse qui est intuitive, mais aussi conforme à la rationalité.
Mmh. Donc toi, vraiment, ce que tu proposes, c'est une voie de réconciliation entre la tête et le cœur.
Absolument, c'est le point le plus important, parce que ce que j'appelle l'écologie intérieure a deux aspects. Ça signifie retrouver sa véritable nature, donc oser être soi-même, oser être spontané, oser être authentique. Retrouver notre véritable nature, qui au final est divine, spirituelle, accomplie. Mais ça veut dire aussi développer toutes les parties de soi, de même que en écologie, la biodiversité implique d'autoriser chaque espèce, chaque règne. Il ne s'agit pas de laisser le règne animal vivre et qu'il n'y ait pas le règne végétal ou le règne minéral ou le règne humain. Toutes les différents règnes et les différentes espèces ont leur place dans un écosystème équilibré. Voilà, et on respecte la biodiversité. De la même manière, chez l'être humain, en gros, il y a 5 fonctions, le physique, l'énergétique et le sexuel, l'émotionnel, l'intellectuel et le spirituel. Et chaque fonction a droit de citer et doit pouvoir, dans une écologie intérieure digne de ce nom, pouvoir être respectée et développée. Mmh. Donc, je pense que les problèmes idéologiques et les problèmes religieux et les guerres de religion sont fondamentalement des guerres de fonctions. On va privilégier certaines fonctions et déprécier d'autres. Bon, dans le christianisme de notre enfance, ou le christianisme traditionnel, avant Vatican II, il y avait 2 fonctions qui étaient fondamentalement diabolisées. La fonction corporelle, le corps c'était mal, c'était la chair et tout, et surtout la fonction sexuelle, c'était diabolique, etc. Bon, on est sorti de ces superstitions. Mais dans la spiritualité contemporaine, il y a une fonction qui est diabolisée, c'est l'intellect, appelé mental. Mmh. C'est complètement aberrant. On a besoin de penser sainement, de penser de manière éclairée, en accord avec son intuition, et donc se battre contre son intellect au nom du cœur est, excusez-moi, une parfaite stupidité. Mmh. On a besoin des deux. À l'inverse, les matérialistes, et souvent beaucoup d'intellectuels type France Culture, j'écoute France Culture toute la journée, ou presque, donc j'adore France Culture. Néanmoins, parfois on tombe sur des discours philosophiques, notamment abscons, incompréhensibles, hyper conceptuel et totalement coupé du ressenti et de l'intuition. Donc en gros, en France, il y a un fossé ahurissant entre l'élite matérialiste intellectuelle et qui souvent part dans des délires conceptuels, et puis le peuple spirituel et souvent anti-intellectuel et qui refuse de se servir de son intellect, souvent à cause de ce que j'appellerais des traumas scolaires et des gens qui ont été dégoûtés de l'intellect et qui disent du coup « Ah mais tout ça c'est mental, c'est sans importance ». Non, on a besoin de se tenir au courant de la marche du monde et de développer sa propre vision, de développer son esprit. Et en même temps, on a besoin d'être une personne aimante et bienveillante et donc d'écouter son cœur et de développer son cœur. On a besoin des deux et opposer les deux est non seulement criminel mais suicidaire. Mmh. Suicidaire. En réalité, les grands esprits étaient à la fois des intellectuels et des spirituels visionnaires. Les Léonard de Vinci, Einstein, Victor Hugo, pour prendre 3 exemples.
Avaient tous une intuition très développée.
Une intuition très développée, un cœur aimant et un intellect surdéveloppé. Mmh. Les deux, non seulement ne sont pas incompatibles, mais vont ensemble. Mmh. Un véritable intellectuel parle simplement, clairement, de manière limpide et dit des choses pertinentes et profondes de manière claire. Mmh. Et donc, parce qu'il est, il n'est pas éloigné de son cœur, et parce qu'il n'est pas éloigné de son cœur et de son ressenti intuitif, il dit des choses justes et qui ne vont pas dans le sens de la domination ni des autres, ni de la planète, et qui ne vont pas dans le sens de la négation de l'écologie, par exemple. Un prétendu intellectuel qui nie l'écologie ou qui se moque complètement de l'écologie, donc de la domination de l'homme sur la planète, n'est pas un véritable intellectuel.
sunrise? What about rain? What about all the things that you said we were to gain? What about killing feels? Is there a time? What about all the things that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the blood we've shed before? Did you ever stop to notice this crying earth, this weeping shore? That you pledge your only son. What about flowering fields? Is there a time? What about all the dreams that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the children dead from war? Did you ever stop to notice this crying earth, this weeping shore?
C'était Michael Jackson, bien sûr, avec Her Song, le chant de la terre, dans Les Enfants du Nouveau Monde, où nous parlons aujourd'hui d'écologie intérieure avec Yann Thibault. Écologie intérieure que vous pouvez venir d'ailleurs découvrir cet été au Festistage qui aura lieu en Ariège, à Sainte-Camelle, du 21 au 31 août, et vous trouverez toutes les infos sur écologieintérieure.org. Une chose aussi très importante dans l'écologie intérieure, c'est de retrouver sa mission de vie. Tu parles de mission de vie, ça peut paraître étonnant pour certains. Certains ne se sont jamais posé la question, ai-je une mission dans cette vie ? Pour toi, tous les êtres ont une mission de vie. S'ils viennent s'incarner sur Terre, c'est qu'ils ont quelque chose de particulier à y faire.
C'est une notion qui procède de l'expérience intérieure, c'est-à-dire de l'écoute de l'intuition et de la recherche spirituelle sur les mystères de l'existence. Tous les êtres qui ont sérieusement cherché, non pas par des voies dogmatiques, les mystères de la vie, sont tombés sur la mission de vie. Je donne trois exemples. Les gens qui se sont intéressés aux NDE. Donc les NDE, Near Death Experience ou état de mort imminente, caractérisent des gens qui ont eu un accident, une maladie grave, et qui au final sont revenus à la vie. Et qui souvent, pas toujours, mais très souvent, donc ayant vécu les premiers stades de la vie dans l'au-delà, sont entrés en contact avec leur guide spirituel ou des êtres de lumière et ont pris conscience qu'ils avaient quelque chose d'important à faire pour cette vie, en particulier pour le reste de leur vie. Voilà, c'est un premier aspect de recherche.
Et souvent, ces personnes-là reviennent complètement transformées avec un courage nouveau pour mettre en œuvre des actions.
Et une détermination considérable et un enthousiasme pour agir de manière utile et positive pour le reste de leur vie, parce qu'ils sont passés temporairement de l'autre côté et ils ont vu, senti ou se sont remémoré leur mission de vie. Actualisée. Et d'autre part, il y a les gens qui ont fait des recherches sur les vies antérieures. On peut parler de ça. Et qui, évidemment, ont trouvé que pour chaque existence, il y avait une mission spécifique qui lui donne un sens. Donc la mission de vie est différente pour chaque personne et ne peut être retrouvée que par soi-même. C'est pas quelqu'un d'autre qui va vous dire ta mission c'est ça, ou à ce moment-là c'est une prise de pouvoir illégitime. Donc nous retrouvons notre mission de vie en nous interrogeant sur nos rêves et sur nos désirs et nos plaisirs. C'est très simple. Notre mission de vie, c'est de faire ce dont on rêve le plus au monde. Donc c'est simple. Pour retrouver sa mission de vie, il y a juste à se demander de quoi est-ce que je rêve le plus au monde.
Qu'est-ce qui me rendrait le plus heureux?
Qu'est-ce qui me rendrait le plus heureux? Et la mission de vie crée la véritable satisfaction intérieure. Et en fait, on va pas trouver notion de la mission de vie dans deux types d'idéologies. D'une part, les idéologies matérialistes, pour lesquelles on est sur Terre pour produire et consommer et pour s'enrichir, et les idéologies religieuses, pour lesquelles on est sur Terre pour devenir un parfait croyant qui accomplit idéalement l'intégralité des rites et qui est conforme à une image stéréotypée. Par contre, on va trouver une autre forme de spiritualité pour laquelle la mission de vie existe, c'est le chamanisme. Pourquoi ? Parce que le chamanisme procède de l'expérience intérieure. Et en particulier dans le chamanisme amérindien, il est question de la quête de vision, où on retrouve sa vision de naissance. James Redfield, dans la prophétie des descentes, surtout dans la 10e prophétie, en parle. Donc les chamans, en tout cas certains d'entre eux, qui sont très intuitifs, connaissent parfaitement la notion de mission de vie sous le nom de vision de naissance ou de quête de vision.
Donc là, pour aider un petit peu les personnes à retrouver leur mission de vie, toi tu proposes des exercices très simples basés sur se reconnecter à nos rêves d'enfant.
Les rêves d'enfance, puisque dans l'enfance, il n'y a pas longtemps qu'on était sur Terre et on était très connecté à ce que l'on venait de vivre dans l'au-delà. Et au moment précisément, avant l'incarnation, où s'est décidée avec nos guides spirituels cette mission de vie. Et donc, on peut retrouver, en se demandant qu'est-ce qu'on aimait faire ou qu'est-ce qu'on voulait faire quand on serait grand, notre mission de vie. Sauf qu'il faut décrypter les rêves d'enfance, parce que l'enfant connaît pratiquement rien de la vie. Donc je donne juste un exemple en ce qui me concerne. Je voulais être prêtre, ou j'ai voulu être prêtre à un moment, mais quand j'ai appris que les prêtres faisaient pas l'amour et pas de copine, ça me branchait plus du tout. Et en fait, qu'est-ce que je voulais dire par là? Que je voulais avoir une action dans le domaine de la spiritualité, mais en réalité d'une spiritualité novatrice et en même temps éternelle.
Alors, on vient de l'évoquer en filigrane, hein, puisque notre mission de vie, nous l'avons choisie nous-mêmes avant de nous incarner. Cette idée-là repose évidemment sur la notion de réincarnation. En ce moment, d'ailleurs, nous sommes ensemble dans un stage que tu proposes sur les vies antérieures. Donc, évidemment, la réincarnation, c'est un maillon indispensable de compréhension de toute l'existence et du parcours de l'âme dans les existences terrestres et autres.
Alors, la réincarnation, effectivement, fournit l'explication de la diversité des missions de vie. C'est dans la mesure où nous avons un parcours différent dans nos vies passées que nous avons une mission de vie différente qui n'est rien d'autre que la continuation de ce que nous avons fait depuis des vies et des vies. Mmh. Et c'en est la synthèse et la prolongation. Ceci étant, je ne mets pas en avant la réincarnation dans mes stages, et en particulier dans le Festival d'écologie intérieure ou Festistage
dont on va
d'écologie
parler
intérieure que j'organise tous les étés pour une raison très simple, c'est que la réincarnation bloque en gros une personne sur deux. Parce que d'une part, ça paraît bizarre pour les matérialistes, encore plus bizarre que le reste, donc c'est pour eux, à leurs yeux, sulfureux ou discréditant, mais sulfureux en particulier pour les chrétiens, qui considèrent que c'est une hérésie, sans savoir que les premiers chrétiens connaissaient la réincarnation et que c'est pour d'obscures raisons politiques que l'impératrice Déodora a fait en sorte que dans le concile de Constantinople au 6e ou 5e siècle, je me rappelle plus, la réincarnation, l'idée de réincarnation était considérée comme une hérésie. Mais si on fait des recherches historiques, on s'aperçoit que tous les peuples de l'Antiquité et tous les peuples chamanistes connaissaient la réincarnation, y compris les druides. Donc nos ancêtres les Gaulois. Donc la réincarnation est une, non pas une idée orientale étrange, mais une évidence pour quiconque procède à une investigation sur les mystères d'existence et les niveaux cachés de réalité. Ceci étant, encore une fois, je mets pas en avant cette idée dans les stages que j'anime, sauf dans un stage spécifique auquel tu participes, sur les vies antérieures et la réincarnation. Le reste du temps, j'en parle pas parce que je sais que ça bloque des gens et je respecte cette diversité de croyances et d'opinions.
Alors justement, mais on peut parler du troisième festistage que tu organises. Donc festistage, c'est une version élargie hein, des stages d'écologie intérieure habituels. Là, ça se passe donc cet été, les deux dernières semaines d'août, dans l'éco-village de Sainte-Camelle, en Ariège, entre Foix et Toulouse. Et donc là, ça sera sur 10 jours. Tu attends combien de personnes ?
Ah, j'en sais rien, il y aura beaucoup de monde, oui, parce que le festistage est un événement que j'ai inventé il y a 2 ans, qui est à la fois un stage et un festival. Donc c'est un stage dans la mesure où il s'agit d'un travail sur soi, approfondi sur une dizaine de jours, avec un thème différent chaque jour, mais ce qui est très original, c'est que c'est un stage à la carte. C'est-à-dire on vient quand on veut, on part quand on veut, on paye à la journée, et la deuxième chose qui différencie d'un stage, c'est que je casse les prix. Pour qu'il y ait beaucoup de monde, et en particulier des jeunes et des alternatifs qui n'ont pas beaucoup d'argent. Et donc, il y a un prix à la journée qui est très bas, en particulier pour les chômeurs et les étudiants. C'est 15 euros par jour pour les chômeurs et les étudiants. Et il y a des prix il y a deux parties si on fait soit toute la première partie sur 5 jours, soit toute la deuxième partie sur 5 jours. Et si on fait les 10 jours, il y a un prix qui est encore plus bas, enfin, je me permets de le dire, qui est 9 euros par jour à ce moment-là. C'est 90 euros les 10 jours pour les chômeurs et les étudiants et 150 euros pour ceux qui ont un travail et qui n'ont pas les mêmes difficultés financières que les chômeurs et les étudiants.
C'est effectivement imbattable. 150 euros pour tout à chacun, donc pour les 10 jours, ou 90 euros pour les étudiants et les chômeurs pour venir passer les 10 jours. Donc là, on va voir tous les aspects de l'écologie intérieure, hein, l'intuition, la transmutation des émotions, guérison du passé, retrouver son but de vie, comme on l'a dit tout à l'heure, la communication authentique, le masculin-féminin, créer consciemment sa réalité, la spiritualité naturelle, expérimenter les états d'éveil et explorer les futurs possibles. Donc ça, bien sûr, si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez aller sur le site de Yann Thibault, donc c'est écologieintérieure.org, et puis on peut camper sur place ou être hébergé sur place dans le magnifique éco-village de Sainte-Camelle. C'est un endroit très chouette où on se trouve d'ailleurs actuellement. Et puis dire un mot peut-être sur les livres que tu as écrits pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur tous les aspects qu'on vient d'aborder, parce que là on a essayé d'en tracer rapidement les contours, mais c'est très détaillé. Donc dans les 3 livres que tu as rédigés,
Pour ajouter quelque chose sur le festistage. Donc le festistage, qui est à la fois un stage et un stage dans la journée, un festival en soirée, festival de l'écologie intérieure, donc les aspects théoriques de l'écologie intérieure, qui sont passionnants, seront abordés le soir par moi et mes assistants dans des films, des débats et des conférences. Donc il y aura beaucoup de monde, sans doute, je l'espère en tout cas, ça a été le cas les autres années, et j'aurai des assistants. Donc c'est un stage où on pourra expérimenter par des exercices concrets les différents aspects de l'écologie intérieure, même s'il y a du monde, parce que j'aurai des assistants qui seront en mesure d'assister par petits groupes les différentes personnes dans les partages en particulier, ou dans le travail en binôme.
Ouais.
Voilà. Et puis je veux ajouter qu'à l'écovillage Sainte-Camel, il y a un magnifique et un très grand chapiteau à 8 côtés en bois avec vue sur les Pyrénées. On est à la fois protégé du vent et de la pluie et on est en même temps en plein air, donc l'été c'est très agréable. Alors en ce qui concerne mes livres, donc j'ai écrit effectivement 3 livres. Le premier, Pour se réaliser. Donc la magie du désir ou l'art de se réaliser, et donc c'est une réhabilitation du désir, comment le désir peut nous permettre, écouter nos désirs peut nous permettre de nous réaliser. Donc 22 exercices pour trouver sa mission de vie et accomplir sa mission de vie. Le deuxième, c'est l'alchimie émotionnelle ou la transformation de soi. Donc comment pratiquer seul, de manière autonome, l'alchimie émotionnelle, et l'harmonisation des relations. Donc la communication, les relations en général, la communication, y compris avec les êtres non humains, et les animaux, les végétaux, les esprits de la nature. Et le troisième bouquin, ça s'appelle La spiritualité naturelle, ou la danse de l'éveil, c'est comment vivre des états d'éveil, par 24 exercices pratiques. Mmh. Et toutes les infos sont sur mon site écologieintérieure.org.
Écoute, c'est l'occasion pour moi de te remercier encore pour tout ce que tu amènes à l'humanité, hein, grâce à ta synthèse et à tes livres, à tes stages, etc. En plus, à des prix effectivement très abordables pour tout à chacun. Donc voilà, redonner l'adresse de ton site internet pour ceux qui veulent en savoir plus, c'est tout simplement écologieintérieure.org. Merci pour cette interview, Yann Thibault.
Merci beaucoup, Céline Elodie.
My gang will get you. Retrouvez les enfants du Nouveau Monde tous les mois sur Radio Fuse. Et en attendant la prochaine, retrouvez et téléchargez toutes mes interviews sur le site web au service du vivant.info.